les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Il s'agissait, avant la diffusion d'une adaptation d'un roman de Gaston Leroux, La double vie de Théophraste Longuet, de rappeler aux auditeurs de France Culture, en octobre 1975, qui avait été cet écrivain, et donc d'évoquer la mémoire et l'œuvre de l'auteur du Mystère de la Chambre jaune. Sa fille, Madeleine Lépine Leroux, témoignait aussi des amis, des admirateurs, l'adaptateur pour la radio de cette double vie de Théophraste Longuet, mais également Léo Mallet qui livrait une anecdote sur l'origine de la fameuse phrase « Le presbytère n'a rien perdu de son charme ». Anecdote rapportée au père de Nestor Burma par Germaine Beaumont. Illusionniste Gaston Leroux, pour le redécouvrir, donc pour redécouvrir Gaston Leroux, émission de Pierre Dupré, première diffusion sur France Culture le 30 octobre 1975.
Je suis né à Paris le 6 mai 1868. C'est la vérité mathématique. Mais la vérité humaine, c'est que j'ai 50 ans. Et que je suis bien décidé à avoir 50 ans le plus longtemps possible, jusqu'à ma mort, qui, je l'espère, arrivera le plus tard possible.
Eh bien, ainsi se présentait lui-même Gaston Leroux, le père de Rouletabille et de Chéri Bibi, en avril 1925, au cours d'une interview qu'il avait accordée à Frédéric Lefebvre. Madame Madeleine Lépine Leroux, cet enthousiasme qu'on sent à travers cette phrase, à travers cette affirmation qui est une sorte de profession de foi, est-ce que vous ne pensez pas, en définitive, que ça a conditionné un peu la conduite de l'œuvre de l'écrivain qui était votre père, ou mieux encore, de celui que j'appelle, moi, un raconteur d'histoire?
Mon père, à 59 ans, n'a pas connu le déclin de la vie. Il a été enlevé en peu de jours, alors qu'il était en plein épanouissement de son talent. Et si vous saviez, toujours animé par cet enthousiasme, si bien décrit par un de ses amis, cet ami disait: il était large, jovial, tumultueux. Nul homme ne savait mieux rire et faire rire. Tout l'amusait, sinon en soi, du moins par le récit qu'il promettait d'en faire. Et d'ailleurs, la seule pensée qu'il était sur la terre, qu'il voyait, qu'il sentait, qu'il respirait, que le soleil brillait, qu'il y avait des couleurs, des parfums et des sons, la mer et le ciel, cette seule pensée suffisait à le tenir en joie.
Au moment où j'ai fait sa découverte, quand j'avais une dizaine d'années ou une douzaine d'années, je crois que quand j'imaginais Gaston Leroux, l'auteur, je le voyais tel qu'il était, sans l'avoir jamais vu, c'est-à-dire avec cette rondeur, avec cette force, avec cette joie de vivre, cette joie d'écrire. Est-ce que, véritablement, il était comme ça? Est-ce que son physique était...
Et alors je vois que rien que de lire ses livres, cela provoquait l'impression que vous aviez. Ça vous le décrivait.
Ah, mes enfants, j'ai une faim de loup. Vite, vite, deux bons œufs au beurre noir. Ah, les malheureux, ce qu'ils peuvent souffrir. C'est effroyable ce qui leur arrive. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Vraiment, ce matin, ils passent un sale quart d'heure. Quel mystère.
Ils rendaient les siens heureux et leur révélaient une façon de voir la vie et de la vivre avec tout à la fois de la profondeur, de la bonté et aussi de la malice, beaucoup de malice. Enfin, son esprit vif et joyeux était toujours en éveil. S'accrochant à un mot lancé, à une situation observée, il ne laissait jamais rien échapper. Et c'était pour la joie de tous. Le rayonnement de sa personne créait une atmosphère familiale que je ne puis évoquer, ainsi que l'écrivait mon frère, sans que monte en moi une bouffée d'allégresse.
Est-ce que pour vous, ces souvenirs remontent au moment où Gaston Leroux était à Nice, où véritablement il s'est trouvé dans un climat, je dis climat entre guillemets, un climat psychologique qui lui permettait de travailler dans des conditions...
Extraordinaires, mais voyez-vous, moi je n'ai connu mon père qu'à Nice, puisque j'avais 7 mois quand je suis arrivée à Nice, mais je sais par ses amis, par ma mère, que quand il était journaliste et qu'il était à Paris et à travers le monde, il était tout aussi joyeux.
Et gentil avec vous, persévère.
Adorable. Je me montais sur ses genoux, je faisais des boucles avec ses cheveux pendant des heures. il était content, je pouvais faire n'importe quoi, il m'élevait comme un cheval échappé.
Et votre mère était-elle satisfaite aussi du...
Ma mère était très contente, elle. Voyez-vous, quand nous étions pas sages, elle nous grondait toujours quand mon père était sorti. Il ne devait jamais assister à quelque chose de désagréable à la maison. Aussi, ça donnait une ambiance extraordinaire.
Vous aviez conscience également du travail un peu particulier auquel il se livrait, ce métier d'écrivain
Non, pour moi, beaucoup de pères devaient écrire. Je n'imaginais pas qu'il y en ait tellement qui soient avec d'autres métiers. Ça me semblait tellement naturel.
Parce que, bien sûr, lorsqu'il descendait le matin, lorsque déjà il avait accompli ce qu'on dirait aujourd'hui sa journée de travail, oui. Il devait descendre extrêmement détendu, et pour vous, ça devait être la fête.
Lorsqu'il avait écrit le mot « fin » au bas de la dernière page, il tirait un coup de feu par la fenêtre du balcon. C'était le signal attendu. Cloches battantes, tambours et trompettes déchaînées, couvercles en fer, casseroles, marteaux et tous autres ustensiles aptes au tintamarre, rendaient dès lors entre nos mains des accords sauvages. Et jusqu'à bout de souffle, à la file indienne, nous parcourions, cohorte hurlante, le jardin et la maison de l'office au salon. Le vent de folie ne s'éteignait que plus tard devant des rasades de champagne, c'était la tradition, c'était le chahut. Après quoi, le roman nouveau pouvait prendre son vol, il était baptisé.
Boileau d'Archejac n'est pas très tendre à l'égard de Gaston Leroux, mais pourtant, il dit, presque textuellement, que le roman policier doit plus à Gaston Leroux qu'à Maurice Leblanc.
Eh mon Dieu, je crois que c'est assez juste, parce que c'est peut-être plus policier ce que Bonfer a fait. Parce qu'Arsène Lupin, c'était un voleur. Il ne cherchait pas à découvrir quelque chose. Il créait la complication. Tandis que Rouletabille, il devait démêler.
Le paradoxe de Gaston Leroux, c'est de poser ensemble la logique et l'absurde, d'opposer l'une à l'autre, d'explorer toutes les impossibilités d'une situation et de faire apparaître la seule solution raisonnable. On est heureux de se laisser éblouir comme on est heureux de voir les lapins et les colombes jaillir du haut de formes vides.
Alors Michel Soldeau, sachant que vous avez été l'ami de Gaston Leroux fils, que peut-être par lui vous avez connu son père ou son œuvre, on ne peut pas faire autrement de vous dire, est-ce que effectivement il y a un rapport qui pourrait être fait, même un rapport lointain, entre l'art de l'illusion et cet art de la littérature tel que le pratiquait Gaston Leroux?
Écoutez, votre question m'embarrasse un tout petit peu.
J'espère.
Mais enfin, il n'y a aucun doute que Gaston Leroux était dans son genre un illusionniste. D'abord, il se faisait mener par, comme dit Rouletabille, le bon bout de la raison. C'est-à-dire que tout ce qu'il a écrit, tout ce qu'il a décrit, était cartésien, était logique, et à la fin... La surprise était peut-être grande, mais elle était dans le contenu avant. Ça veut dire, il n'était pas l'écrivain de romans policiers où tout d'un coup, à la fin, on apprenait que c'est le valet de chambre qui n'a joué aucun rôle pendant tout le roman, était l'assassin.
Je voudrais bien que, si vous le voulez, que vous nous évoquiez comment vous avez connu M. Gaston Leroux, fils, et comment, par son intermédiaire, le père, peut-être, vous est apparu comme étant cet écrivain qu'on
essaie de faire revivre aujourd'hui. J'ai aimé Gaston Leroux, père, avant de connaître la famille Gaston Leroux, parce que j'étais enthousiasmé par son œuvre. Mais j'ai fait à Nice la connaissance, tout d'abord, de Madeleine Leroux, ici à mes côtés, ensuite de sa maman, hélas disparue, et après du fils. Et je me suis lié d'une très grande amitié avec Gaston Leroux, fils, qui était un styliste merveilleux. J'avais écrit il y a des années de cela un livre sur l'histoire de l'illusionnisme, et c'est lui qui me l'a corrigé de A à Z. Il a changé tous les virgules, tous les impératifs, les définitifs et autres tifs.
C'est ça, il a jonglé à son tour.
Il a jonglé à son tour avec mon texte, voyez-vous. Et alors, il m'a raconté aussi une chose qui n'a peut-être rien à voir avec la prestidigitation, mais avec le don de journaliste, le don d'observation de Gaston Leroux, père. Un jour, il fut envoyé, je crois, par son journal en Afrique du Nord. Et pour aller en Afrique du Nord, il est allé d'abord aller à Marseille, qu'il ne connaissait pas. Arrivé à Marseille, il a pris à la gare un fiacre. Il a dit au cocher de descendre très doucement la canebière, ce que le fiacre et le cocher et le cheval ont fait. Et arrivé au port, il a pris son bateau. Mais de l'Afrique du Nord, je ne me souviens plus si c'était le Maroc, la Tunisie ou l'Algérie. Du Maroc, je crois. Il a envoyé à son journal un article sur Marseille, comme s'il y avait vécu 10 ans. Il avait un sens d'observation extraordinaire. Et je suis persuadé que si j'avais eu l'honneur de connaître Gaston Leroux père, il aurait trouvé le secret de mes trucs. Justement, en se laissant mener par le bon bout de la raison, parce que chaque tour de prestidigitation, quand on sait comment ça se fait, on se dit, mais comment est-ce possible que je ne suis pas tombé dessus ?
Dans quelques instants, Jean Rougeol, nous allons entendre une adaptation que vous avez faite d'un très beau roman de Gaston Leroux. Mais j'avoue que La double vie de Théophraste Longuet est un roman qui me plaît particulièrement parce que il s'apparente pour moi à l'œuvre fantastique de Gaston Leroux.
En réalité, ce n'est pas exactement moi qui ai choisi à ce moment-là La double vie de Théophraste Longuet, puisqu'il y a déjà eu une première adaptation radiophonique il y a très très longtemps qui avait été faite. Et c'était Paul Gilson qui m'avait, à ce moment-là, demandé de choisir La double vie de Théophraste Longuet.
Le grand poète,
Paul Gilson, oui. Et comme personnellement j'adorais La double vie de Théophraste Longuet, il n'y a pas eu de discussion, j'ai dit tout de suite, oui, choisissons celui-là, faisons celui-là. Bon, vous avez parlé tout à l'heure du roman policier, du roman d'aventure. Moi, j'emploierais pas tellement le mot policier, d'ailleurs, je trouve que Madeleine Leroux a raison de dire le roman d'aventure, parce que c'est beaucoup plus large et ça peut aller beaucoup plus haut. Et que dans la mesure où il a fait du policier, il l'a dépassé, à mon avis, le roman policier. Et alors, La double vie de Théophraste Longuet, vous avez cette double chose, ce côté délirant, qui est peut-être plus juste que fantastique pour La double vie de Théophraste Longuet. Quand on lit, je me rappelle la première fois que j'avais lu il y a très très longtemps, je disais mais c'est complètement délirant. Et puis, comme l'a dit Michel Seldo, avec le bon bout de la raison, d'accord, on découvre que sous le délire il y a une rationalité, si vous voulez. Mais en plus, il y a un sens dans cette histoire de W.T. Fastlanguet. Ce roman pose le problème de la responsabilité du criminel. Et il le pose d'ailleurs de deux façons. Par un subterfuge, si vous voulez, d'une autre manière, il reprend le problème qui avait été posé par Lombroso, qui avait été le premier à supposer que certains criminels pouvaient être criminels pour des raisons physiques, physiologiques.
Enfin. Physiologiques, oui.
Lombroso s'était trompé sur les caractéristiques, mais un grand savant d'aujourd'hui, Jean Rostand, a fait remarquer que l'important, c'était qu'il ait posé la question, qu'il restait un grand homme sur ce plan-là. Actuellement, je crois qu'il est question de chromosomes, des choses comme ça. Ça, je ne vais pas en parler parce que j'y connais rien. Mais enfin, il y a ce problème-là. Est-ce qu'un criminel peut l'être pour des raisons de sa constitution physique, si vous voulez? Bon, c'est fait d'une toute autre manière que ça, d'une manière géniale par Gaston Leroux, mais le problème, il est posé. Bon. Et d'autre part, il est posé aussi sur le plan social, étant donné qu'il y a tout un passage, je ne veux pas non plus, encore une fois, déflorer l'œuvre que vous allez entendre, mais il y a tout un passage qui montre que, pour Gaston Leroux, dans une société différente de la nôtre et plus juste, bien des gens qui sont des criminels dans notre société ne le seraient pas avec une autre organisation sociale. C'est-à-dire que dans ce roman, qui a l'air d'un roman d'aventure, complètement délirant, surréaliste, etc., il y a un sens assez profond. Pour moi, c'est un des plus beaux de Gaston Leroux, ce qui n'enlève rien aux autres, bien entendu.
Eh bien, avec moi, justement, deux tenants de ce groupe surréaliste. Le mot tenant n'est peut-être pas très beau, mais Léo Mallet, celui que Rabigneau appelle, à juste raison d'ailleurs, le seul surréaliste du roman policier, et Pierre Prévert, qui a fait partie de ce renfort spectaculaire qui est arrivé au groupe surréaliste en 1925, puisque vous étiez avec Tanguy qui malheureusement est disparu maintenant, Marcel Duhamel, l'actuel directeur de La Série Noire, et bien sûr votre frère Jacques Prévert. Le surréalisme qui a adopté Gaston Leroux, alors que le surréalisme a été tellement dur pour certains écrivains. Alors je vais vous demander tout de suite, pourquoi ce choix ?
Nous connaissions, mon frère et moi, Gaston Leroux, avant de rencontrer le groupe surréaliste. Et c'est Jacques, précisément Jacques, qui m'avait fait lire les premiers livres que j'ai eus en ma possession. Et entre autres, il y avait Gaston Leroux en bonne position. Voilà, c'est comme ça que j'ai connu Gaston Leroux, et plus précisément La Reine du Sabbat.
Léo Mallet.
Ah bien, moi je suis un petit peu comme Prévert. Lorsque j'ai rencontré André Breton et que j'ai adhéré, moi, au groupe surréaliste, je connaissais aussi déjà Gaston Leroux. Je connaissais Fantomas et je connaissais Maurice Leblanc, Arsène Lupin. Je crois que c'est ces trois...
Les trois terribles.
C'est ces trois terribles, on les lit en même temps. Et j'ai été surpris, j'ai été plutôt content de voir que, par exemple, Paul Éluard avait chez lui relié un exemplaire de Chéri Bibi, la fameuse couverture avec « Pas les mains », et dédicacé par Gaston Leroux. Alors, je n'ai pas eu de discussion avec Breton au sujet de soit de Fantomas, soit de Gaston Leroux. Parce que déjà, quand j'ai rencontré Breton, c'était en 1930, et déjà la période, si l'on peut dire, Leroux-Fantomas, était déjà assez lointaine. Je crois que les premiers temps, les surréalistes, lorsqu'ils ont fait des papillons sur lesquels il y avait la fameuse phrase « Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat », déjà, c'était une période qui était un petit peu dépassée. On s'occupait d'autres choses. Alors, je crois que les surréalistes ont manifesté de l'intérêt à Gaston Leroux à cause de ces fameuses phrases en italique, qui constituent d'ailleurs, si on les met bout à bout, je crois que Rougeal a fait quelque chose comme ça, ça constitue un poème. Et surtout des phrases étonnantes, comme « Le presbytère n'a perdu son charme, ni jardin de son éclat. Maintenant, il va falloir manger du saignant. Pas les mains, que dit Chéri Bibi, le machin. » Et alors, à propos du presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat, j'ai une petite anecdote. J'en avais parlé un jour avec Germaine Beaumont, et on s'interrogeait sur l'origine de cette phrase. Et Germaine Beaumont me dit, cette phrase n'est pas, si l'on peut dire, de Gaston Leroux, elle serait de Georges Sand. Et elle m'a expliqué dans quelles circonstances elle avait eu connaissance de ça. Alors, elle m'a écrit une lettre dont je vais lire quelques extraits. Elle me dit, Dinant, voici bien des années, avec Colette et Gaston Leroux, que Germaine Beaumont désirait connaître, Germaine Beaumont pria celui-ci de bien vouloir lui écrire à titre d'autographe la phrase enchanteresse, c'est Germaine Beaumont qui parle, la phrase enchanteresse qui constitue le leitmotiv du mystère de la chambre jaune, le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. Gaston Leroux acquiesça une lueur amusée dans ses yeux vifs et sombres. Il demanda une feuille de papier, écrivit, signa, et Germaine Beaumont se récria aussitôt « Oh, vous vous moquez de moi, vous avez signé Georges Sand !»« C'est que la phrase est de Georges Sand, » répondit Gaston Leroux. Et Germaine Beaumont garda précieusement cet étrange autographe.
Vous avez un faible tout à fait particulier, Pierre Prévert, si j'ose dire, pour un des romans de Gaston Leroux, qui est « La Reine du Sabbat ».
Oui,
et vous avez des raisons d'avoir choisi particulièrement ce livre comme vraiment l'objet d'une certaine adoration.
D'abord, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que c'est un souvenir de jeunesse, c'est un des premiers romans que j'ai lus, donc il m'a marqué profondément, et que, étant enfant, je suis allé beaucoup au cinéma, et j'ai suivi surtout les feuilletons, les films à épisodes de l'époque, et quand il est venu la possibilité de faire des feuilletons à la télévision, j'ai toujours... tout de suite penser à La Reine du Sabbat. Je l'ai proposé depuis 1950, et finalement, ça aboutit. Et au dernier moment, au moment où ça allait être réalisé, ça a échoué, et j'espère que ça n'a échoué que momentanément, parce que c'est vraiment le type même du feuilleton vraiment extraordinaire, plein de rebondissements, plein d'humour, avec des scènes extrêmement dramatiques, sanglantes quelquefois, et beaucoup de moments d'émotion, et puis d'humour.
Et Rouletabille existe. Il existe aussi fortement que Sherlock Holmes ou Arsène Lupin, avec deux romans seulement. Je dois dire que moi, j'ai même une préférence pour ces deux romans. Je trouve les deux autres, où apparaît Rouletabille, ne m'emballent pas. Enfin.
Pierre Prévert.
Ils sont très différents, du reste. Oui, le mystère de la chambre jaune et le parfum de la dame en noir, ce sont des livres, je crois, beaucoup plus mûri, construit que,
ah,
que les
puis
autres.
Alors, le mystère de la chambre jaune, c'est un chef-d'œuvre. Hein? Qu'on le prenne comme on veut, c'est un chef-d'œuvre.
Il faut dire aussi qu'il a un nom merveilleux.
Rouletabille.
Qui n'était pas du reste le nom d'origine.
Non, puisque... non c'était Rouletabos, je crois, ou Boitabille.
C'est Boitabille. C'est ça. Hein? Quant à vous, Pierre Prévert, cette adaptation de La Reine du Saba, je n'ose plus dire maintenant que c'est peut-être un hommage rendu. Du surréaliste Gaston Leroux, adopté par les surréalistes, puisque vous dites que vous n'apparteniez pas au groupe.
Oh, si, j'appartenais au groupe. Et puis,
bon, voilà, c'est ce que je voulais vous faire dire.
J'appartenais au groupe et j'en ai certainement subi une influence considérable. Pour moi, c'est un souvenir impérissable. Quand on est très jeune, et puis j'étais beaucoup plus jeune que sont jeunes aujourd'hui les gosses de cet âge, et de pouvoir voir Aragon... Pelé-Loire, Desnos, Breton, etc., les côtoyer, les écouter, les entendre, parce qu'il faut dire, ils ne pontifiaient pas. Hein. Ça se passait à la rue du Château, et c'était un endroit où on riait beaucoup. C'était un spectacle permanent.
C'est ce que j'ai eu l'occasion de dire récemment dans la préface des poèmes, puisque un éditeur vient de publier la totalité de mes poèmes. Dans l'entretien que j'ai eu avec Yves Martin, qui préface ce recueil, je parle justement de Breton. Et je dis que c'est Breton ne se prenait pas tous les jours pour André Breton. Et lorsqu'on parle du pape, moi, ça me fait rigoler parce que je l'ai vu, cet homme-là, très humain. Les types qui parlent le pape, c'est des gens qui n'ont pas connu André Breton. C'est tout. Enfin, du moins, je crois.
Roland Straglietti, c'est Jacques Sadoul qui a vendu la mèche de votre double personnalité. Hein. Disons qu'on vous connaît également sous le nom de Bruno Wauters. Vous avez été critique.
À fiction.
Vous l'êtes maintenant au Monde. Vous l'êtes au magazine littéraire,
oui.
Et vous êtes, j'ai employé un mot qui est très laid, mais vous êtes un spécialiste pour moi de ce qu'on appelle la littérature populaire.
Oui, avec un département particulier pour le fantastique, dans lequel je me suis encore peut-être plus spécialisé que dans le populaire.
Alors, dans la littérature populaire, où classez-vous Gaston Leroux ?
Eh bien, écoutez, je le classe vraiment au premier rang, en quelque sorte, car pour moi, c'est un très grand auteur, et c'est indiscutable, car il y a tout chez Leroux. Il y a la fantaisie, l'humour, la poésie, ce qui n'est pas le cas chez tous les romanciers populaires. Et quand il n'y a pas poésie chez un romancier populaire, il ne m'intéresse pas, du reste. Je dis ça pour Fantômage, je dis ça pour Lahire et pour un tas de romanciers de ce genre, qui ont vraiment, enfin, fait des histoires pour gagner leur vie, mais qui n'y croyaient pas et qui ne respectaient pas tellement leurs lecteurs, à mon sens.
Quand on parle de romans populaires, il y a toujours un arrière-goût de péjoratif.
Ah, bien sûr. C'est tellement vrai que, mon Dieu, Leroux ne figure dans aucune histoire de la littérature, sauf au tome 3 de l'histoire des littératures de la Pléiade, dans la partie le roman populaire qu'a écrit Jean Tortel, le professeur Jean Tortel. Et là, il est cité 8 fois avec éloge, du reste. Mais à ma connaissance, c'est bien la seule histoire de la littérature française où l'on puisse trouver Gaston Leroux. Mais on peut dire que Les Misérables de Victor Hugo, c'est le roman populaire. La série des romans de Balzac où apparaît Vautrin, c'est du roman populaire. Bien entendu, c'est le feuilleton.
Comment pourrait-on définir alors le roman populaire ?
Alors, c'est bien difficile. Au fond, c'est un roman qui s'adresse, à mon sens, à tout le monde, non pas seulement à l'élite ou à des gens qui suivent une mode. Je crois que c'est ça le véritable roman. Je crois que c'est le roman populaire. Et aujourd'hui, il y a une certaine désaffection. Alors, on fait des best-sellers qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'était le roman populaire d'autrefois. C'est fait en série. Pour moi, ça n'offre aucun intérêt. Je ne trouve pas dans les romanciers d'aujourd'hui ce que je trouvais dans les grands romanciers populaires d'autrefois.
Le sous-entendu péjoratif qu'on porte dans les jugements sur Gaston Leroux, à mon avis, sont quelquefois déplacés parce que, tout de même, il y a eu quelques romans de Gaston Leroux qu'on ne peut pas classer, à mon avis, dans la classe des romans populaires. Et je fais allusion en particulier à ce roman que je viens de relire qui s'appelle « Les Mohicans de Babel ». Pour moi, ça n'est pas un roman
populaire. Ah non, c'est un roman absolument extraordinaire. On pourrait dire, si l'on veut, que c'est un roman surréaliste. On le dit, enfin, ça se dit beaucoup, c'est presque une tarte à la crème. Mais c'est un roman très extraordinaire. Et mon Dieu, qui on pourrait rapprocher, si l'on veut, d'un certain roman de André Salmon, aujourd'hui absolument oublié, et qui s'appelle Les Archives du Club des Onze, qui est un roman très délirant aussi, et d'une poésie folle, n'est-ce pas? Et Salmon est considéré comme un auteur, enfin, pour une certaine élite, disons, il n'a jamais été classé dans les romanciers populaires. Eh bien, Leroux rejoint ça, et c'est tout à son honneur. Pour moi, c'est un très très grand livre, c'est un de ses grands livres, vraiment. Et un des moins appréciés, des moins connus, quoiqu'il ait été réédité par le Cercle du bibliophile, il n'y a pas longtemps.
Alors, comment classez-vous ces œuvres un peu insolites?
Eh bien, écoutez, ces œuvres insolites, il y a d'abord des romans qui sont nettement fantastiques, comme La double vie de Théophraste Longuet, qui est une merveille, bien entendu, Le cœur cambriolé, La poupée sanglante et sa suite, La machine assassinée, Le cœur cambriolé, bien sûr, et une longue nouvelle de lui, L'homme qui a vu le diable. Alors ça, c'est franchement fantastique, l'irrationnel est là, constamment présent. Tandis qu'il y a aussi des romans fantastiques expliqués, comme Le fantôme de l'opéra, Le fauteuil hanté, qui est une merveille aussi, L'homme qui revient de loin. Au fond, ce sont tous des romans où le fantastique s'explique, c'était un peu le procédé autrefois d'Anne Radcliffe, où il y avait des mystères accumulés, et à la fin, il y avait une explication rationnelle, n'est-ce pas? Mais Madame Radcliffe était souvent ennuyeuse, alors que Leroux ne l'est jamais.
Ne l'est jamais, effectivement, oui. C'est à propos du cœur cambriolé, du reste, qu'un critique a dit que si même on devait oublier toutes les œuvres de Gaston Leroux, jamais on ne pourrait oublier ce roman.
Ah, je dois dire que c'est le plus romantique, c'est le plus extraordinaire. Et alors là, vraiment, L'amour fou, qui est une des constantes des œuvres de Leroux, de même que Les amours enfantines, qui, mon Dieu, des fois forment un tout. On trouve ça chez Leroux dans tous ses livres, à peu près. Et alors là, c'est une importance extraordinaire. Au fond, ils sont connus enfants, ils s'aiment, on les marie, tout doit réussir et ça finit très mal. Mais c'est l'ouvrage peut-être le plus pathétique de Leroux.
Est-ce que vous pourriez alors, pour conclure, me dire pourquoi actuellement on note, et c'est vrai, un regain pour les ouvrages de Gaston Leroux qu'on réédite et qu'on achète et qu'on lit?
Oui, oui. Les éditions Rencontre viennent encore de faire une réédition des 20 meilleurs Leroux, je crois ce qu'ils appellent les 20 meilleurs Leroux, bien entendu. Eh bien, je crois que ça tient peut-être à l'époque dans laquelle nous vivons, avec cette vie où, au fond, le rêve a peu de place, et la poésie aussi. Je crois qu'on a besoin de retrouver cela. Et même chez les jeunes, c'est presque inconscient, mais je crois qu'ils y vont pour ça, pour retrouver une chose qui est peu courante et qui mérite de ne pas être oubliée, je crois.
Et les hommes de notre âge?
Ben, les hommes de notre âge, peut-être qu'ils recherchent un peu, comme toujours, un peu leur jeunesse.
La poésie de Gaston Leroux, fixée dans quelques phrases incantatoires, est une des réserves, une des sources et la force secrète de sa puissance romanesque.
Jean-Claude de Rupert, bonjour.
Bonjour.
Vous avez quelques nouveaux Gaston Leroux pour moi en ce moment?
Oh, j'en ai quelques-uns, là, des pas très courants.
Ah bon, il faut tout de suite rassurer tout de même nos auditeurs, c'est que le dialogue n'a pas lieu en 1922, mais il a lieu bien aujourd'hui, en octobre 1975. Et en fait, les nouveaux Gaston Leroux dont il s'agit, c'est quoi, Jean-Claude de Rupert?
Bah, ce sont des livres assez vieux, les premières éditions de Gaston Leroux, comme par exemple La Nouvelle Aurore, Les Héros de chez Mulpeau, d'assez rares, qui sont plus ou moins de science-fiction et qui ont un regain d'intérêt actuellement parce qu'ils sont parus dans des collections de science-fiction, comme par exemple La machine à assassiner et La poupée sanglante, des histoires d'automates terrorisant la ville, très d'actualité.
Qui vient chercher ces ouvrages de Gaston Leroux aujourd'hui et qui les lit surtout?
Des jeunes, c'est-à-dire le fils et très souvent le père, qu'il l'indique à son fils. Et le fils revient pour reprendre les livres et s'intéresse encore de plus en plus jusqu'à découvrir Chéri Bibi et les grands personnages de Gaston Leroux.
Vous ne croyez pas que les hommes de ma génération, par exemple, viennent chez vous en particulier et cherchent dans Chéri Bibi, dans Rouletabille et autres romans de Gaston Leroux des souvenirs, des émerveillements de leur première lecture de jeunesse?
Alors, c'est exact. C'est exact, les livres qu'ils lisaient en cachette, qu'ils avaient obligé ou de jeter ou de donner, qu'ils sont tout heureux de retrouver et de pouvoir emporter et mettre dans leur bibliothèque comme une pièce rare.
Autrement dit, la maturité des hommes leur donne une certaine indépendance du choix maintenant. Ils ont le droit de lire ce qu'on leur interdisait peut-être de lire à une certaine époque.
Ah oui, toute ma clientèle sont beaucoup composée de ces personnes là, qui recherchent, qui redécouvrent. On arrive à situer même leur âge avec leur recherche.
Est-ce que vous croyez que, véritablement, ils viennent chercher une lecture ou un objet qui représente pour eux vraiment un souvenir attendrissant?
Une lecture. Une lecture. Ils ont lu énormément de livres et ils s'aperçoivent en ce moment d'une sorte de faillite du roman populaire, un peu de la littérature policière. Alors ils repartent vers leurs anciennes amours.
Je vais vous poser une dernière question. Des puristes ont souvent mis en cause la qualité du style et peut-être aussi la forme désuète de l'écriture de Gaston Leroux. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Jean-Claude de Rupert ?
Moi, je trouve que c'est parfaitement bien écrit. Parfaitement encore d'actualité. Encore de... Quand on reprend ces reportages de journalistes, mais ça serait merveilleux si on pouvait lire une relation actuelle dans le genre que Gaston Leroux faisait dans le temps.
Je pense en particulier aux dernières lignes de l'agonie de la Russie blanche, où Gaston Leroux était presque prophétique.
L'autocratie est morte cet hiver. Certes, sa grande ombre plane toujours sur la ville, comme l'ombre de Pierre le Grand elle-même. Mais ce n'est plus qu'une ombre, vous dis-je. Qu'une déjà lointaine image. Ce n'est plus qu'un morceau de bronze historique qui se cabre sur un rocher de granit.
Le 15 avril 1927, Gaston Leroux meurt à Nice, où, comme l'a dit son fils, depuis 1907, il écrivait « Dans la joie » avec le soleil pour complice. Cette année-là, au Moulin Rouge, la revue aux étoiles est donnée sans Mistinguette, mais avec Jeanne Aubert et Harry Pilser. Cette année-là, en 1927, Cocteau publie « Opéra », Marcel Proust « Le temps retrouvé ». Aujourd'hui, on lit moins Cocteau, on a parfois l'envie de relire Proust, mais on découvre toujours, on redécouvre même Gaston Leroux, le charme du presbytère et l'éclat de son jardin.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 30 octobre 1975. Vous pourrez la réécouter en ligne durant 1000 jours ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.